RTBF, la première.
Tout autre chose.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette émission Tout autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet et plus particulièrement des sites perso et ce qu'on appelle aujourd'hui les weblogs. Si l'Internet offre beaucoup de liberté en matière de publication personnelle, il faut quand même toutefois rester sur ses gardes. Alors pourquoi un site web perso? Comment faire ce site? Que peut-on faire et ne pas faire surtout, notamment en matière de respect de droits d'auteur, de la propriété intellectuelle? Comment protéger sa création? Comment avoir son propre nom de domaine? Que sont les weblogs? C'est ce que nous verrons dans cette émission jusqu'à midi. Vous pouvez bien sûr intervenir, poser vos questions, apporter une réflexion. Si vous avez déjà visité ce qu'on appelle les journaux intimes en ligne, ou bien tout simplement des sites personnels qui vous offrent des réflexions sur la vie ou sur d'autres choses, que vous appréciez ce type de site ou que vous ne comprenez pas du tout leur utilité, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part. Le 02 737 26 06 est à votre disposition. 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be. Tout autre chose écrit en un seul mot. Je vous retrouve avec mes invités juste après Sting. Bonne matinée à l'écoute de la première.
In summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. Only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, click on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sets my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hear from the light. Shake me dancing. Please shake me dancing tonight. I imagine his wife. She don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs the traffic light. And she drives me dancing to the truth. I promise one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hear from the light. Shake me dancing. Please shake me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light. You go from red to green. So I just drive me into the light. Please shake me dancing tonight. One day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the night. Shake me dancing. You shake me dancing tonight. You shake me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day.
avec Stolen Car, extrait de son dernier album. Il est 11h09, tout autre chose. Aujourd'hui, nous parlons donc, comme je le disais, de sites perso et de weblogs. Vous pouvez toujours intervenir, bien sûr, dans cette émission. Si, par exemple, vous visitez régulièrement Internet et que vous tombez sur ce type de site, vous les adorez, vous adorez le type d'informations qu'ils vous donnent, eh bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir. A contrario, vous trouvez ça parfaitement inutile, vous ne comprenez pas pourquoi on parle de soi comme ça sur Internet, eh bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir également. Et puis, si vous êtes vous-même à l'origine ou à l'origine d'un site personnel, que vous avez créé votre propre site, eh bien n'hésitez pas à nous faire savoir pourquoi vous l'avez fait et s'il y a des retombées, si ce site vous sert effectivement à quelque chose, pourquoi et comment vous l'avez créé, quelle est votre idée. N'hésitez pas, le 02 737 26 06 est à votre disposition, ainsi que le courriel, bien sûr, tout autre chose, @rtbf.be, tout autre chose, écrit en un seul mot. Nathalie est là pour prendre vos appels aujourd'hui, et nous recevons en studio Étienne Wery. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris, spécialisé dans les technologies. Vous allez donc pouvoir nous parler de droit, parce que c'est vrai que quand on fait un site personnel, eh bien, on a des droits et des devoirs également en la matière. Donc,
absolument,
on en parlera dans cette émission. Thomas Parvet, bonjour.
Bonjour Véronique.
Consultant à Altran Europe. Et vous aussi, vous connaissez pas mal, hein, les sites perso. Vous avez le vôtre?
J'ai eu le mien, effectivement, au début des années 94, donc c'est tout au début.
Précurseur.
Assez précurseur, effectivement. Et puis maintenant, moi, avec Étienne, on fait vivre le site des droits des nouvelles technologies, effectivement, qui n'est plus réellement un site perso, mais qui a débuté comme étant un site perso en 96.
Qui est un site de référence aujourd'hui, dont nous nous servons dans l'émission Tout Autre Chose, pour avoir des informations, parce que c'est vrai qu'il est bien alimenté de ce point de vue-là. Donc, on le salue, hein, au passage.
Merci, merci.
Vous le retrouvez, bien sûr, en référence sur notre site à nous, www.lapremière.com. .be, vous cherchez les pages de Tout Autre Chose et vous allez voir dans les références ou dans les archives. Nous recevons également dans cette émission Cédric Couvreur. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Vous êtes producteur manager chez Skynet et vous êtes chez Skynet hébergeur de blogs ou de webblogs ou de jouets web. On verra un petit peu quelle est l'appellation qu'on peut adopter. En tout cas, ça se passe comme ça depuis le mois de mai. Vous nous expliquerez pourquoi Skynet s'est lancé là-dedans. Il faut quand même savoir que depuis le mois de mai, ce qui n'est quand même pas très très loin, vous avez quand même déjà un bon millier de personnes qui ont fait leur weblog.
Oui, tout à fait, même un petit peu plus. Aujourd'hui, jusqu'à 5000 blogs.
Il faut savoir que dans le monde, ils sont déjà plusieurs milliers à avoir fait leur propre site en la matière. Alors, on va peut-être déjà faire une différence, messieurs, entre le site personnel et le weblog, ce qu'on appelle le weblog, Thomas.
Oui, alors, peut-être d'abord dire ce que c'est donc un site personnel. C'est un particulier qui souhaite diffuser de l'information, qui souhaite écrire, partager avec la communauté Internet certaines informations. Ça peut être des photos, des textes, des poèmes, enfin tout ce qu'ils souhaitent. Et en quoi ça consiste? Ça consiste en écrire, d'utiliser des textes de sa propre production, des photos, des images, des sons, mm-hmm. et les mettre au format internet, donc format web, qu'on appelle le format HTML, et les publier sur un serveur web, donc qui peut être accessible de n'importe où, par n'importe qui dans le monde. Alors en fait, il y a deux types de technologies. Il y a la technologie classique, donc qu'on peut appeler HTML, qui est en général une technologie qui est mise à disposition par la plupart des fournisseurs de services Internet. Lorsque vous avez un abonnement chez eux de connexion Internet, vous avez aussi un espace disque sur leur propre machine, mm-hmm. pour mettre sur ces disques-là vos propres compositions au format HTML, donc qui est le langage qui permet de mettre en page les informations multimédia du web. Mm-hmm. Donc cela nécessite évidemment des outils, il en existe des simples, mais des outils qui peuvent être compliqués pour réaliser ces pages HTML. Ça peut commencer avec un simple éditeur de texte, des éditeurs spécialisés qui permettent parfois même à des gens tout à fait débutants, non spécialisés, de faire ces réalisations, de faire cette programmation en langage HTML. Ensuite, il suffit de transférer tous ces fichiers HTML, musique, vidéo, images, vers l'espace disque du serveur de son hébergeur, mm-hmm. Pour que le site soit en ligne, donc accessible par n'importe qui. Donc ça, c'est la première approche qui est peut-être un peu complexe pour les vraiment tout débutants, parce qu'il faut quand même connaître un minimum ces technologies HTML et pouvoir se débrouiller avec un ensemble de logiciels comme des programmes HTML, de FTP, enfin, etc. Alors, une autre technologie qui existe maintenant depuis plusieurs années, mais qui commence vraiment à exploser, c'est ce qu'on appelle les weblogs. En fait, les weblogs, c'est une application, un ensemble d'applications qui est mis à disposition de tout un chacun pour réaliser in fine le même objectif, c'est-à-dire partager des informations, discuter en ligne, partager des images, mais sans avoir la contrainte de la programmation HTML.
Mm-hmm.
Cela veut dire que, via une interface web, proprement dite, vous créez vous-même votre propre espace web personnel. Donc tout se fait en ligne, via le navigateur Internet, sans devoir connaître le moindre rudiment de HTML. Enfin, il n'est pas nécessaire. Il peut être intéressant, mais il n'est pas nécessaire. Donc il suffit juste savoir manipuler le navigateur Internet, suivre le mode d'emploi, et vous pouvez réaliser votre site personnel, qu'on appellera dans ce cas-là weblog, auquel toute la communauté pourra participer. Alors un weblog, ça rassemble en général plusieurs types de fonctions. Ça rassemble la première fonction, c'est diffuser des textes de l'information, donc c'est, on met des humeurs, des poèmes, on partage du texte, des images bien sûr, il y a aussi des forums, donc tout ça sont des modules qui sont automatiquement mis à disposition. Donc vous pouvez demain créer en 3 coups de souris votre propre forum de discussion sur votre hobby, par exemple. Mm-hmm. C'est aussi l'échange de liens. Donc c'est vraiment une communauté virtuelle qui est créée très facilement en quelques clics de souris, sans avoir besoin d'être un expert en programmation Internet. Mm-hmm. Donc ça, c'est le log ou le weblog. Donc ça vient du mot web et log, un log en langage informatique. Donc c'est une trace. Hein, vraiment, on dit un logging, to log, c'est vraiment conserver une trace de quelque chose. Et donc le weblog, c'est vraiment un outil qui permet d'enregistrer sur le web des traces, des écrits, des photos à la queue leu-leu, comme ça, ouvert à tout le monde.
Le terme en français que l'on a désigné pour weblog, c'est joueb, joueb, je crois.
Mais c'est une bonne traduction, le joueb, parce que pour simplifier un petit peu l'image du weblog, ceux qui ont des enfants ont déjà joué avec des enfants en jeune âge à construire une maison. Il y a des jouets en bois comme ça, alors on ouvre la boîte et puis il y a un toit, il y a une fenêtre, mm-hmm. il y a une porte, il y a un sentier, il y a un jardin, etc. Et l'enfant peut vraiment arranger comme il veut, mettre la porte au premier étage s'il a envie, à la limite, peu importe, c'est son imagination. Eh bien, le weblog, c'est la même chose. Vous avez une palette d'outils comme ça qui sont à votre disposition et vous décidez librement de les mettre à gauche, à droite, de ne pas sélectionner celui-là. Vous faites une maison sans fenêtre, ben pourquoi pas, ou avec 4 cheminées. Et c'est finalement un jouet qu'on met à disposition de n'importe qui pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir communiquer.
Alors, du point de vue sociologique, c'est quand même relativement intéressant, parce que c'est vrai que c'est une évolution en la matière, que ça offre énormément de possibilités. On le verra, il y a bien sûr des droits et des devoirs en la matière. Cédric Couvreur, votre collègue Jeroen van den Broek, disait récemment dans les pages multimédia du Vif l'Express que finalement, l'évolution de ce mode de communication est actuellement en pleine croissance. Il répond aux besoins d'un internaute arrivé à maturité. Alors, quelque part, c'est vrai que ça fait presque partie d'une évolution logique. Cela dit, pour en arriver là, j'imagine que chez vous, on a quand même pas mal réfléchi à la chose. Pourquoi on s'est ouvert au weblog comme ça?
Mais d'abord parce que la plupart des weblogs et des outils weblogs qui existaient sur le marché étaient des outils qui étaient anglophones, qu'on estimait qu'il était important pour nos internautes d'avoir en fait une suite d'outils qui étaient dans leur langue maternelle et qui était donc compréhensible par tout un chacun. Mm-hmm. Donc on a évidemment développé l'outil en français et en néerlandais. Et puis je pense aussi parce que, comme vous le dites, c'est une forme d'expression pour un internaute qui est arrivé à maturité et que tout un chacun aussi, on se doit aussi de mettre à disposition de l'internaute un outil qui est simple, facile et pour que chacun puisse vraiment construire son weblog du jour au lendemain. Et je vous assure, c'est vraiment très très simple. Mm-hmm. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que non seulement ça peut être, par exemple, on a des weblogs qui sont très 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 amusants. On a des gens qui discutent de musique, de cinéma, de toutes les passions qu'on peut trouver, mais on a aussi des gens qui vont raconter leur vie, qui vont updater le blog jusqu'à 20 fois, 30 fois par jour, simplement oui. Avec une phrase, deux phrases. On a par exemple des blogs de femmes qui sont enceintes et qui vont se faire suivre toute leur grossesse sur les blogs. On a pas mal de choses assez amusantes. Et le plus amusant, c'est de voir que tous ces gens forment une énorme communauté. Et qu'entre eux, ils vont commencer à organiser tous des événements qui vont se voir en dehors du monde virtuel qu'est Internet. Ils vont essayer de se rencontrer, d'organiser des événements. Et vraiment, ils s'entraident. Il y a vraiment une grosse entraide entre eux. Tiens, j'arrive pas à faire ceci. Comment est-ce que toi, tu as fait? Et donc, ils vont vraiment communiquer entre eux. Ça, c'est vraiment un phénomène assez important.
On avait une émission récemment sur l'intimité, le besoin d'intimité dans toute autre chose. Et ce qu'on disait finalement, c'est que les gens qui participent soit à des émissions de télé-réalité, soit à des émissions émissions où l'on doit témoigner, ce genre de choses, ne font pas qu'exprimer un besoin d'exhibitionnisme, loin de là, que c'est beaucoup plus complexe que cela, et que souvent on cherche à confirmer qu'on est bien comme tout le monde et finalement qu'on fait partie d'une certaine communauté. C'est un peu la démarche que font les weblogueurs aujourd'hui, non ?
Oui, tout à fait. Je pense que effectivement tout le monde va... On va s'exprimer sur son blog, on va au départ, je pense que ça part pas vraiment d'une volonté exhibitionniste, c'est plutôt je vais m'exprimer sur le web, et puis on a plutôt l'impression au départ d'être seul justement, et de se dire tiens, il y a pas grand monde qui va venir, je m'en fiche, je vais faire mon blog et puis je vais communiquer et puis on verra bien si les gens viennent ou pas. Et puis c'est justement ce côté-là qui marche, c'est le fait que les gens ne vont pas là pour montrer certaines choses, ils vont là parce que ils vont mettre leur humeur, et c'est ça qui marche, c'est le côté naturel, c'est ça qui fait que la communauté va vraiment se créer, c'est que les gens sont vraiment complètement naturels et disent ce qui leur passe par la tête et affichent leur passion en toute liberté.
Ce n'est jamais que la transposition à l'heure de l'Internet, de la communication entre les êtres humains, comme ça s'est fait de tout temps. Il y a 250 ou 300 ans, dans les salons littéraires en France et en Belgique, il était de bon ton d'écrire ses carnets intimes, la carte du tendre, lorsqu'on était amoureux d'une femme et on devait passer. Et alors, il y avait des grandes soirées qui étaient organisées, tout le monde se rencontrait, on mangeait ensemble, et on s'échangeait simplement à l'époque les carnets intimes, un petit peu pour d'abord échanger au niveau littéraire des idées et ainsi de suite. C'est la même chose, ça n'a pas changé finalement de tout temps. L'être humain aimait dialoguer avec ses semblables, et aujourd'hui le weblog lui donne un outil de plus qui est très dans l'air du temps, qui est très moderne et qui ouvre en fait une dimension de plus par rapport à la communication ancienne, c'est qu'elle est mondiale. À savoir que pour autant, bien sûr, que d'autres personnes partagent votre langue, le français ou le néerlandais, pourquoi pas, eh bien, quelqu'un au Canada va vous répondre, va visiter votre site, vous allez vous rendre compte qu'il a le même centre d'intérêt que lui. Donc c'est finalement la seule dimension qui est changée, c'est la nature mondiale de l'Internet, mais pour le reste, c'est d'une communication comme une autre.
Il existait, dans la fin des années 80, début des années 90, l'ancêtre de l'Internet qu'on appelait les BBS, peut-être que certains auditeurs se souviennent.
Les bulletin boards.
Les bulletin boards, qui étaient des systèmes qui permettaient d'échanger, des systèmes vraiment de communautés, qui s'échangeaient des messages, des humeurs, des textes, des images aussi. Bon, évidemment, via des technologies beaucoup plus archaïques, enfin qui paraissent aujourd'hui beaucoup plus archaïques par rapport à l'Internet, mais cela existait déjà à un niveau mondial, donc l'amateur d'informatique, mais il fallait quand même être un amateur éclairé et avisé pour participer à ce genre de réseau de discussion, donc ces forums de discussion ouverts à tout le monde. C'était peut-être un peu l'ancêtre des sites perso, sans le côté multimédia évidemment qui existe aujourd'hui, donc vidéo, son, etc. Parce que les réseaux de télécommunication sont aujourd'hui assez matures pour transporter ces hautes quantités d'informations que sont les multimédias.
On va y revenir dans quelques instants. On va essayer de voir également si on peut tout faire et tout mettre, surtout sur ces weblogs ou ces sites perso. On en parlera d'ici quelques instants, mais vous pouvez toujours poser vos questions au 02 737 26 06 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be. Vous êtes bien à l'écoute de la première ? Restez-y.
Thank you. vaut le vaut. Je ne peux plus te dire tu. Je ne veux plus s'habituer.
C'est Moen avec vous. Il est 11h25 minutes. Nous parlons toujours des weblogs et des sites perso ou joueb. Je trouve que c'est pas très évident à dire joueb. Oh, oui, au journal du web. Allez, voilà. Allons-y. Utilisons ce terme. Nous en parlons parce que finalement, on peut pas mettre tout ce qu'on veut sur un site perso. C'est pas parce qu'il est perso que l'on peut comme ça avoir toute une série d'informations, n'est-ce pas, mon cher Étienne Mouiri? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur Internet, notamment en matière d'informations que l'on donne. Il y a des choses que l'on doit faire obligatoirement.
Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Non, vous avez tout à fait raison. Évidemment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et comme d'habitude, on va bientôt enregistrer ça. Et comme ça, je peux appuyer sur un bouton pour toutes les émissions. Ce qu'on ne peut pas faire dans le monde réel, on ne peut en principe pas le faire sur l'Internet. Ça ne change pas. Alors, quelle est l'implication la plus fréquente pour les blogs? C'est d'abord tous les droits de propriété intellectuelle. Donc, il y a énormément de passionnés de musique qui font des sites personnels, qui mettent des liens vers des fichiers MP3 ou qui mettent des fichiers MP3 eux-mêmes. Évidemment, si jamais ça se fait en violation des droits d'auteur, et 99 fois sur 100, ça se fait en violation des droits d'auteur, c'est illégal. Comme l'a d'ailleurs appris à ses dépens il y a quelques années en Belgique, il y a 3 ans, un brave étudiant qui avait mis des centaines de liens vers des fichiers MP3. Donc, il n'hébergeait pas les fichiers MP3 chez lui, mais il indiquait aux gens où ils pouvaient les trouver. Mm-hmm. Les fichiers MP3 étant, bien sûr, comme tout le monde le sait, la musique au format numérique qu'on peut écouter sur l'Internet et télécharger. Eh bien, ce brave garçon s'est fait condamner assez lourdement parce qu'on a dit, écoutez, vous participez à une contrefaçon. Donc, non, attention, en matière de musique, on marche sur des œufs. Alors, ce qui est également très fréquent, c'est les photos. C'est très agréable d'avoir sur son site web, de mettre sur son site web quelque chose de plus vivant, comme des photos et autres. Eh bien, il faut faire attention. Ou bien, c'est une photo qui vient de chez vous. Hein, ça arrive souvent sur les pages personnelles. Vous mettez une photo de la famille. Pas de problème. Pour autant, bien sûr, que vous avez l'accord de toute votre famille. Hein. Si vous êtes divorcé avec votre épouse et que vous mettez des photos d'elle, eh bien, elle pourrait ne pas apprécier. Attention, je rigole pas, il y a des procès qui se font là-dessus. Hein, essentiellement parce que l'épouse est souvent dénudée sur les photos en question et que c'était des photos intimes du couple. Et une fois que le couple se sépare, la brave dame ne souhaite plus apparaître sur le site web de son mari. Ce sont des choses qui arrivent. Mais si vous prenez des photos sur Internet, hein, il ne faut pas simplement cliquer sur le bouton droit de sa souris, sauver sous, le mettre sur votre disque dur et puis hop, le rebalancer sur votre site web personnel. Il y a quelqu'un qui a pris cette photo. La plupart du temps, il est titulaire de droits d'auteur. De nouveau, on joue avec le feu. Et c'est là de nouveau où les logiciels qui sont proposés par les fournisseurs de services, et on va en reparler ici avec M. Couvreur, sont intéressants parce que, sourire de ma part, il y a des bases de données de photos qui sont libres de droit. Il y a, en tout cas, dans un certain nombre... peut-être pouvez-vous en parler à ce niveau-là.
Il y a plusieurs... il y a d'abord ce qu'on appelle donc le background, donc ça veut dire le fond de votre blog, la couleur que vous voulez, et puis c'est évidemment basé sur des photos qui sont évidemment des photos dont on détient les droits, heureusement d'ailleurs. À côté de ça, il y a quelques photos évidemment de bases de données qu'on peut éventuellement mettre à disposition de l'utilisateur. Je dirais qu'on ne met pas vraiment l'accent là-dessus parce que je pense que tout un chacun a des photos chez lui ou a des photos qui sont disponibles pour mettre ses blogs, que souvent la plupart des photos qu'on veut mettre sur un blog sont plutôt des photos perso et que donc on ne va pas commencer à mettre des bases de données qui n'ont pas trop de sens par rapport à ça. Par contre, il y a au-delà des photos, comme vous le disiez, il y a encore les liens vers tout ce qui peut être fichiers musicaux, les vidéos, et au-delà de effectivement la propriété intellectuelle, il y a tout ce qui est atteinte à la vie privée, il y a le contenu qui peut être à caractère pornographique, pédophile, et ce genre de choses.
Et vous exercez un contrôle sur les pages de vos clients?
Alors, notre rôle n'est pas d'être le policier des blogs aujourd'hui, notre rôle est plutôt de faciliter toute personne qui pourrait trouver un contenu qui pourrait être choquant ou qui pourrait l'ennuyer sur les blogs. Donc en dessous de chaque blog, vous avez une adresse email que vous pouvez contacter si jamais vous trouvez du contenu qui peut être du mauvais contenu ou bien des gens qui s'expriment de manière qui n'est pas tout à fait correcte. À ce moment-là, vous envoyez un email chez nous et là, nous avons un département qu'on appelle le département Abuse et qui s'occupe justement de prévenir les internautes qui ont mis ce contenu en ligne, qu'ils enfreignent les règles donc de bonne conduite de Skynet et les règles qui sont des règles légales comme vous le soulignez tout à l'heure et que donc ils doivent retirer ça de leur site. En attendant, ce qu'on fait, c'est on retire le site simplement de la mise en ligne, donc il est toujours là, on ne détruit pas toutes les données mais il n'est plus accessible de l'extérieur et on attend que la personne ait modifié tout le contenu de son blog ou de son site et ensuite on le remet en ligne.
Et si la personne qui possède le site dit non, j'ai tout à fait le droit de faire ça, comment est-ce que vous tranchez la question?
Généralement, c'est pas notre rôle de trancher. À partir du moment où effectivement ça choque les gens et qu'ils se plaignent une première fois, s'ils refont une plainte et qu'effectivement à partir de ce moment-là ça passe par exemple la gendarmerie ou ce genre de choses-là, nous sommes à ce moment-là tout à fait à même de donner les coordonnées de la personne qui avait mis ça en ligne si jamais effectivement ça va plus loin. Sinon, ce qu'on fait tout simplement, c'est on ne remet pas le contenu en ligne si effectivement on constate que le contenu n'est pas licite.
Ça pose la problématique de savoir qui est derrière un weblog, parce qu'un weblog peut être créé donc n'importe où, sur n'importe quel serveur dans le monde entier, hein, donc il n'y en a pas qu'en Belgique qui sont disponibles, donc je pourrais très bien demain, en 5 minutes, m'enregistrer sur un serveur de weblog aux États-Unis sur un faux nom, avec une fausse identité, et générer là-bas des informations à caractère...
Ce qui n'est pas le cas chez vous, puisque dans le nom pour accéder au weblog de quelqu'un, il y a toujours Skynet qui apparaît quelque part dans le titre, ça c'est quelque chose qui reste. Et d'autre part, mais enfin, cela dit, c'est vrai, on peut s'identifier de n'importe quelle manière. Est-ce que vous avez un moyen de savoir que la personne qui a ouvert un weblog chez vous est bel et bien une personne telle qu'elle s'est inscrite?
Alors il y a deux choses. De nouveau, simplement au niveau du principe général, on peut pas tout Internet est libre et donc on ne sait pas tout contrôler.
Oui.
Mais par contre, on a deux choses qui sont mises en place. La première, c'est il faut être identifié chez Skynet, donc comme utilisateur du portail, pour pouvoir utiliser les blogs. Donc il faut avoir ce qu'on appelle le Skynet Pass. Pour ça, vous devez rentrer une adresse email valide. Donc la seule chose dont on se rassure, effectivement, lorsque vous aurez créé votre Skynet Pass, c'est que la personne qui a créé son blog a une adresse email valide avec laquelle on va pouvoir communiquer avec la personne si jamais il y a quoi que ce soit qui peut se passer sur le blog. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout... On parlait de loguer tout à l'heure. Effectivement, on a des logs des adresses physiques des ordinateurs. Donc, qu'est-ce qu'une adresse physique? C'est ce qu'on appelle en termes informatiques l'adresse IP. Quand vous connectez sur Internet, vous avez une adresse IP qui est donc l'adresse physique de votre ordinateur sur le réseau Internet. Donc, quand vous updatez vos blogs, on sait quel est l'ordinateur qui a updaté le blog à ce moment-là. Et donc, on peut faire des recherches par là. De nouveau, c'est ce genre de recherche-là n'est fait que lorsqu'on a une demande qui vient effectivement du monde judiciaire. Où là, on met tout en mesure pour pouvoir les aider. Donc, clairement, un moyen d'identifier sûrement qui est derrière un blog, je dirais que c'est difficile, mais en tout cas, on essaye de prendre toutes les précautions qu'on peut aujourd'hui pour pouvoir aller le plus loin possible.
Ce n'est pas le cas partout.
Parce non, que je suis certain que chez notre invité, les conditions générales et le contrat sont tout à fait parfaits, mais c'est une chose auquel il faut faire très attention, parce qu'il y a un certain nombre de petites sociétés qui voient dans les blogs une possibilité de faire du profit assez facilement, parce que c'est vrai que l'outil, on en parlera peut-être tout à l'heure, la plupart du temps, l'outil vient du logiciel libre, donc ce sont des outils qui sont gratuits à utiliser, et donc il est très simple, pour autant que vous ayez un serveur connecté à l'internet, il est très simple de dire moi je vais jouer le rôle de fournisseur de services, je vais concurrencer ces grosses sociétés. Bon, le problème c'est que le contrat est très important, parce qu'il faut vraiment prendre le temps dans ce contrat de dire au client, c'est-à-dire à celui qui décide de mettre une page personnelle sur votre serveur, il faut prendre le temps de bien dire ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce que dans quelles conditions est-ce qu'on peut suspendre sa page personnelle? Comment est-ce qu'on va le joindre? Parce que c'est vrai qu'il est malgré tout possible et relativement facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre, hein, par exemple en prenant une adresse sur une adresse comme Yahoo, Hotmail ou autre, sur des comptes qui ne sont pas contrôlés, eux, et vous pouvez à ce moment-là ouvrir un compte chez un fournisseur belge. Mmh. Eh bien, une des clauses importantes dans le contrat sera de dire que toutes les notifications peuvent se faire valablement à cette adresse-là. Et tant pis pour vous si vous avez donné une mauvaise adresse. C'est que vous avez voulu contourner les règles, et bien les règles se retournent contre vous. Donc il est vraiment important d'avoir un contrat qui est bien fait. C'est souvent sur cette base-là que le fournisseur pourra réagir lorsqu'il y aura un abus qui sera signalé. Il dira, écoutez, vous avez violé par exemple un étiquette, vous avez violé mon code de bonne conduite que je vous ai donné, tant pis pour vous. Mmh. Et d'ailleurs, les juges l'acceptent, même en Belgique, lorsqu'il y a un code de conduite qui est donné à un client en disant voilà ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, eh bien ce code de conduite fait partie en quelque sorte du contrat, et si jamais le client viole ce code de conduite, le fournisseur peut en général suspendre purement et simplement le site. Ce qui se fait souvent.
Thierry nous raconte qu'il y a quelques années, justement, un vendeur baratineur, nous dit-il, est venu lui proposer de lui installer un ordinateur à la maison avec un programme pour créer son propre site. Il lui proposait également un contrat de location de l'ordinateur et de l'entretien du site, coût et faramineux de 180 000 francs sur 3 ans. Sa conclusion, méfiez-vous de certains vendeurs. Alors justement, les accès en général à ce genre de choses, est-ce qu'ils sont payants? Est-ce qu'ils sont gratuits? Chez vous, à Skynet, c'est gratuit, je crois?
Oui, tout à fait.
Ça va le rester? Ou c'est juste un coût pour le lancement?
Tout ce qui est gratuit aujourd'hui restera gratuit. Il est possible qu'on développe des options qui seront peut-être payantes sur le côté, mais tout ce qui est gratuit aujourd'hui restera.
Vous l'avez dit, ça vient du monde libre. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on vous fait payer pour accéder à un weblog, il faut mieux se méfier?
Non. Donc peut-être dire pourquoi ça vient du monde libre. Et d'abord, c'est peut-être quoi le monde libre?
Bien, c'est Linux.
C'est le monde de Linux, effectivement. Donc c'est un système d'exploitation pour ordinateur qui a été mis en place et développé par la communauté mondiale de toutes les personnes qui veulent participer à ce projet. Et en fait, la manière dont ils se sont fédérés pour réaliser ce logiciel-là, c'était effectivement via des plateformes de discussion, via parfois des sites personnels, des weblogs, comme on en parle aujourd'hui. Donc ça a été pour eux un outil de travail pour communiquer, pour améliorer des logiciels et des outils disponibles dans le monde libre, donc dans le monde du Linux. Alors aujourd'hui, on a parlé au début des pages personnelles, donc qui sont des espaces disques qui sont mis à la disposition des abonnés d'un service, d'un fournisseur de services à Internet. En général, effectivement, quand il s'abonne un abonnement ADSL ou autre d'une manière annuelle, il a un certain nombre, une certaine quantité d'espaces disques qui est fourni dans l'abonnement, donc gratuitement, pour lequel il peut aller mettre ses pages HTML. Les weblogs, en général, ne font pas partie de ce genre d'abonnement et sont disponibles gratuitement chez certains fournisseurs ou bien ailleurs dans le monde. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et demain, comme je vous dis, en 3 clics de souris, ouvrir votre weblog à vos couleurs et avec vos informations. Donc en général, c'est gratuit. Effectivement, si vous voulez plus un meilleur service, quand j'entends un meilleur service, des services un peu différenciés, parfois cela devient payant. Évidemment, on rentre alors dans le domaine plus professionnel du site internet d'une entreprise, qui n'a plus rien à voir avec le site internet d'un particulier, où il y a des accès particuliers à des bases données de produits, où par exemple il y a un nom de domaine particulier, donc au lieu d'avoir une adresse internet du genre weblog.com, Skynet dans le cas de notre collègue.be, ben vous avez par exemple www.veroniquetéberguin.be par exemple, donc qui vous identifie. Donc là vous avez un nom de domaine personnel. En général, ce sont des services que les fournisseurs d'accès ou les fournisseurs d'espace web ou de weblog vous font payer. Parce qu'évidemment, ça vous permet de différencier fortement par rapport à la communauté.
Mais pour résumer, lorsque c'est un privé qui souhaite faire son weblog pour lui, hein, une page personnelle, disons, plus facile à faire, si on lui fait payer les services de base, c'est qu'en principe, il a intérêt à aller voir ailleurs, puisqu'il pourra avoir un service aussi bon gratuitement.
On va y revenir d'ici quelques instants parce qu'on commence à recevoir des questions relativement précises sur le phénomène. Donc ça sera juste après Maxime Le Forestier. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions bien sûr au 02 737 26 06 02 737 26 06.
La princesse tout à guetter. Dans ma tête j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu veux, moi donne-toi. Tu robes à fleurs, moi donne-toi.
ça faut la paille, tu peux gagner, tu fais du kata kata dans mon lacard. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout le monde monte ça là dans bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout le monde monte ça là dans bas là-bas. Dina mon bateau Marie-Thérèse, Dina l'âme son numéro un, Dina mon la ligne à pendant, qui pêche poisson dans l'eau brisant. Tout ce que tu besoin, moi donne-toi, tu robes à fleurs, moi donne-toi, ça pour la paille, tu peux gagner, tu fais tout kata kata dans mon lacard. En bas là-bas, en bas là-bas. En bas là-bas, tout monte, monte, ça là dans bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas. En bas là-bas, tout monte, monte, ça là dans bas là-bas. Dans ma tête j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu besoin, madame-toi, tu robes à fleurs, madame-toi, ça pour la paille, tu peux gagner, tu fais tout kata-kata dans mon lacard. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout monte, monte, ça là, en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout monte, monte, ça là dans bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout monte, monte, ça là dans bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout monte, monte, ça là dans bas là-bas.
Maxime Le Forestier avec Mbalamba, il est 11h42, tout autre chose, nous parlons toujours des weblogs et des sites perso bien sûr. Nous avons des réactions, celle de Denis qui voudrait signaler que les sites perso sont à son sens un maillon indispensable pour la démocratie culturelle et un contrepoids utilisé à l'hégémonie de pensée unique. C'est un outil surtout gigantesque pour de petites associations. Bien sûr, effectivement, on trouve beaucoup de petites associations, mais pas uniquement, des classes aussi, des écoles qui veulent... communiquer entre elles, des choses comme ça. C'est vrai que quand on fait une recherche sur Weblog, on retrouve énormément de sites d'associations comme ça qui n'ont pas forcément les moyens justement d'ouvrir un site plus perso, plus construit, où il faut débourser pas mal d'argent.
C'est vraiment l'outil idéal pour mettre le monde à un bout de clic et partager vraiment les informations avec la communauté. C'est très facile, très rapide.
J'arrive parce qu'on parle de la communauté, du monde libre.
Oui, mais bon, c'est vraiment une manière effectivement pour des associations non lucratives ou des écoles aussi de communiquer avec d'autres personnes ou d'autres communautés dans le monde très facilement.
C'est vraiment un signe de maturité de l'internet aussi, parce que au départ l'internet il est venu aujourd'hui l'internet c'est d'abord je devrais pas dire ça, mais enfin c'est dans une large partie, disons, un monde commerçant.
Oui.
Alors que l'Internet, c'était pas ça au départ. Une fois qu'on a quitté le domaine militaire du tout début de l'Internet, c'est devenu vraiment
universitaire,
collaboratif, d'échange, de gratuité, et ainsi de suite. Et en fait, ces outils, aujourd'hui, reviennent vraiment à l'essence de ce qu'était l'Internet à son tout début, à savoir permettre de communiquer facilement, rapidement, pour peu d'argent.
Mmh.
Et il est vrai qu'on voit parfois des sites de ce type-là qui se créent parfois pour une après-midi. Vous organisez avec les scouts de votre unité, vous organisez une fête annuelle pour montrer les dias du camp. Eh bien, vous pouvez faire un site perso invitant les parents, montrant le programme, éventuellement avec des photos du camp, possibilité d'envoyer des mails pour réserver des places, pour dire ce qu'on qu'on va apporter une tarte, etc. Enfin bref, on peut imaginer n'importe quoi. Pour un événement qui dure quelques heures, eh bien, en 15 minutes, vous créez votre site. On a vu des classes dans lesquelles le projet de la journée était de réaliser un site web pour montrer aux enfants, parfois de 6, 7, 8 ans, que c'est faisable. Pourquoi pas ? Ça coûte rien. Il suffit d'un ordinateur, d'une connexion, et hop, c'est parti.
Effectivement, le matériel de base est moins limité. Hein. Un ordinateur raisonnablement puissant, enfin un ordinateur classique suffit aujourd'hui. Il faut évidemment une connexion à l'Internet, même si elle n'est pas permanente. Donc ça peut être via une ligne téléphonique ou bien via des moyens plus rapides comme l'ADSL ou bien les modems câbles. Et voilà, vous êtes connecté et vous pouvez mettre en ligne toutes les informations que vous souhaitez.
On a plusieurs questions pour savoir évidemment comment accéder aux weblogs et comment les créer. Notamment la question qui nous vient de Madeleine. Mes connaissances sont rudimentaires, dit-elle. À qui puis-je m'adresser pour m'assister pour la création de mon weblog? Alors le principe justement du weblog, c'est qu'on n'a pas besoin d'être assisté parce que tout est inscrit.
Oui, mais enfin,
étape par étape, quoi.
Les weblogs, encore une fois, ont pensé à ça. Du moins, les créateurs de weblogs ont pensé à cela en mettant à disposition des personnes qui souhaitent en créer un nouveau. Mais le mode d'emploi, hein, donc c'est ce qu'on appelle des facs ou des manuels d'aide, des guides pour accompagner donc la personne. Dire voilà les étapes successives que vous devez faire pour mettre en ligne votre weblog ou mettre en ligne votre information.
Certains outils n'ont pas aussi des wizards, donc des,
oui, effectivement,
des assistants.
Des assistants automatiques, absolument. Donc là, il faut un petit peu fouiller peut-être sur Internet, trouver des sites donc, qui permettent de créer des weblogs. Et généralement, effectivement, il y a des assistants ou vraiment un manuel dans votre langue régulièrement quand même qui vous assiste pour vraiment mettre en ligne et en quelques clics
de
souris.
Au-delà de la simplicité de l'outil, effectivement, il y a des gens des fois qui sont débutants et donc qui vont avoir un petit peu de mal à créer leur site. Et à chaque fois donc des facs et des ce qu'on appelle les foires aux questions en fait les questions qu'on pose le plus souvent les emails qu'on reçoit, on les compile et on les met en ligne pour que les gens justement n'aient pas de problème dans la création de leur blog. Et normalement c'est vraiment très très simple donc
et puis normalement sur ce serveur de weblog là il y a certainement un weblog d'aide justement avec un forum de discussion pour expliquer aux débutants comment faire. Donc l'outil fait son autopromotion.
Madeleine vous pose une question relativement intéressante également, c'est elle se demande si elle peut annoncer un voyage organisé sur son weblog. J'irai peut-être plus loin même dans la question. Imaginons que j'organise effectivement un voyage et que je voudrais le vendre entre guillemets à d'autres personnes qui visiteraient mon weblog. Je fais du commerce à ce moment-là. Est-ce que je peux le faire?
A priori, rien ne vous empêche de le faire. Pour autant, bien sûr, que la société chez qui vous hébergez votre site accepte que les weblogs servent également à des fins commerciales. Tout le monde ne l'accepte pas. Mais a priori, rien ne vous empêche de le faire. La seule chose, c'est que d'un point de vue juridique, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on l'a déjà fait plusieurs fois, d'un point de vue juridique, vous devenez ipso facto soumis à un certain nombre de lois. Qui sont les lois sur le commerce électronique, qui sont les lois sur la vente les contrats conclus à distance et ainsi de suite, qui sont des lois assez contraignantes. Donc il faut voir si le jeu en vaut la chandelle. Mais sur le plan des principes, autant que votre fournisseur l'accepte, pourquoi pas.
Voilà, je dirais que si vous voulez effectivement organiser un voyage dans le cadre d'une association ou ce genre de choses-là, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, à partir du moment où ça devient commercial, chez nous en tout cas, il y a, je pense qu'on le déconseille, et surtout même dans les conditions générales, on le refuse pour l'instant, effectivement, pour deux raisons. Première chose, c'est que si vous voulez avoir un site à caractère commercial, il y a d'autres outils qui sont faits plus ça, qui seront peut-être plus à même de répondre à votre demande. Et la deuxième raison, c'est qu'à ce moment-là, vous rentrez effectivement dans un cadre juridique qui est tout autre que celui dans lequel on s'inscrit dans le cadre des weblogs. Et à ce moment-là, il y a vraiment des règles à respecter.
Et d'ailleurs, les visiteurs des weblogs ne souhaitent peut-être pas voir ce genre d'informations. S'ils viennent voir les weblogs, participer dans une communauté d'échange et de discussion sur un thème ou un hobby, ce n'est pas pour se voir proposer des meubles ou la vente d'autres objets.
On y viendra peut-être, hein, ça veut dire.
Mais il y a alors des weblogs plus commerciaux, hein. Attention, le mot weblog, ça sous-entend une technologie derrière qui peut être appliquée aussi dans des objectifs commerciaux.
On a Anita qui, elle gère une association et trouve qu'effectivement, via le weblog, elle a réglé les problèmes financiers qu'elle pouvait avoir à la création d'un site parlant de son association. Elle nous parle notamment de l'achat d'un nom de domaine qui lui coûtait relativement cher et comme elle n'a pas de connaissances précises en la matière, il lui aurait fallu passer par une société qui gère ou qui crée des sites, donc entre guillemets un webmaster. Alors, c'est vrai que dans ce cas-ci, ça peut être une solution, mais si on veut faire quelque chose de plus, d'un petit peu plus lourd, puisque c'est vrai que l'espace disque est quand même limité sur les weblogs, si on veut faire quelque chose de plus précis, de plus grand, de plus gigantesque.
Alors, il faut peut-être passer dans la méthode plus non weblog, donc c'est-à-dire construire vous-même votre site, enfin vous faire aider par quelqu'un d'autre, donc programmer les pages HTML, mettre éventuellement des accès de base de données, mettre en forme, mettre en page là, donc en sortant complètement du modèle weblog. Mm-hmm. Mais là, vous devez, je ne vais pas dire repartir à zéro. Il existe des outils, des modèles que vous pouvez réexploiter. Mais là, il vaut mieux le reprendre le problème à la base. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut avoir la réflexion sur comment je veux communiquer mon message, comment je veux structurer l'information. Tandis que les weblogs vous simplifient grandement le travail en choisissant simplement des couleurs, des templates, donc des modèles de weblog. Vous choisissez celui qui vous convient et vous voilà parti. Tandis qu'avec le site fait du sur mesure, bon, ça demande un investissement en temps d'abord plus important pour une association et parfois en argent aussi. Alors le problème du nom de domaine, aujourd'hui on trouve vous pouvez acquérir un nom de domaine .be ou .com ou .org etc. pour une bonne dizaine d'euros annuellement. Donc maintenant après il faut trouver effectivement un hébergeur commercial qui permettra de, sous ce nom de domaine-là, héberger votre site perso ou votre site de votre association avec votre nom de domaine. Et là, ça coûte quelques dizaines d'euros par mois en général.
On a des questions aussi sur la propriété, notamment celle de Max. Max qui signe Max the Web, donc qui doit probablement être un habitué. En fait, Max, lui, voudrait poser la question inverse que celle que nous avons évoquée avec vous, Étienne Wery. Il dit que l'on met toujours le doigt sur les personnes qui mettent des liens vers des sites MP3 ou vers des sites de photographie. Mais qu'en est-il, moi, avec mon weblog, mes photos et mes extraits musicaux que j'ai créés par moi-même? Comment puis-je les protéger?
Ça, évidemment, c'est tout un autre débat. Il est évident que dans le monde de l'Internet, le chasseur peut devenir le gibier assez rapidement et vice-versa. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent que les weblogs et les pages personnelles sont, disons, présentent un haut degré de risque de contrefaçon. Mais à l'inverse, admettons qu'il crée un petit morceau musical, quelqu'un crée un morceau musical dans son garage, hein, avec son synthétiseur et autres, il le met sur Internet, eh bien, il est auteur. Mmh. Et donc, il a le droit à la même protection que Madonna ou que n'importe quel autre chanteur qui serait premier au top 50 mondial. Il a droit à la même protection. La loi ne fait pas de distinction entre les deux. La seule chose, c'est que si... tout le monde sait que l'industrie du disque éprouve d'énormes difficultés à lutter contre la contrefaçon sur Internet et pourtant il balance des milliards de dollars là-dedans pour essayer de créer un modèle qui protège efficacement la musique. Je doute que cette personne arrive toute seule à lutter contre cela. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. Mais il y a moyen de prendre un certain nombre de précautions, par exemple avec des outils techniques de protection. Donc vous pouvez intégrer à votre morceau un outil technique de protection qui empêche de copier le morceau ou qui ne permet de le copier qu'une seule fois. De la même manière, si vous êtes un photographe amateur et que vous faites un site personnel avec vos photos qui sont superbes pour éviter qu'on les retrouve dans un magazine spécialisé, eh bien vous pouvez faire ce qu'on appelle du watermarking, du tatouage, c'est-à-dire tatouer votre image de manière invisible ou visible, c'est vous qui choisissez, avec des signes qui montrent que c'est bien votre propriété, que c'est vous qui avez créer cela. Mmh. Donc il y a un certain nombre d'outils, mais malheureusement c'est extrêmement difficile de garantir une sécurité totale.
Ce qu'on constate aussi peut-être dans les blogs et puis dans d'autres sites aussi, c'est lorsque vous avez des images où vous mettez des photos qui sont vos photos en ligne ou vos morceaux musicaux, les internautes vont souvent dégrader la qualité de leur œuvre sur Internet de manière à ce qu'on ne puisse pas la réutiliser à des fins tout du moins commerciales. Donc ça veut dire si vous voulez reprendre la photo, la mettre sur votre site, elle sera de suffisante qualité que pour pouvoir être exposée, même si votre nom n'apparaît plus, je dirais que le mal est moindre. Par contre, si vous commencez à faire des impressions, des photos, d'en faire des cartes postales et que vous les commercialisez, là effectivement il risque d'y avoir préjudice. Donc les gens vont dégrader la qualité de l'image ou dégrader la qualité du morceau audio qu'ils vont mettre sur Internet de manière à ce que justement on ne puisse pas en faire un usage commercial.
Mmh. On a encore une question, c'est celle de Hugues qui voudrait savoir comment faire pour que sa page ait plus de chances d'être visitée.
Bien là, la première recette, c'est l'enregistrer, la faire connaître à toutes les personnes qu'il connaît et celles qu'il ne connaît pas. Alors pour cela, c'est l'enregistrer sur les moteurs de recherche les plus utilisés, hein, donc les Google, Yahoo, AltaVista, etc. Bien que je me demande si ces moteurs-là, enfin, ou du moins tous ceux-ci, prennent bien en compte les pages weblog. Donc c'est là, il faut aller plus loin, il faut creuser un petit peu plus loin.
Chez nous, par exemple, au niveau de
il y a un annuaire de
Google, il y a un auto-référencement qui se fait sur tous les blogs, et en plus de ça, il y a l'index, évidemment.
Voilà. Oui, en général, sur les weblogs, il y a un index, donc vous rentrez le mot-clé, que sais-je, moi, Music Rock, et vous avez tous les weblogs enregistrés sur ce serveur-là. Ouais. Mais donc, on peut conseiller à cet auditeur de s'enregistrer sur les moteurs de recherche les plus communs, et aussi, peut-être, bon, il y a des outils, les webrings, comme on appelle ça, donc c'est des espèces de communautés qui touchent au même thème et qui s'échangent des liens. Dire, voilà, vous pouvez aller voir, si vous êtes intéressé par ce thème-ci, allez visiter le site de telle personne qui s'occupe aussi de cela, etc.
C'est ça, c'est qu'en général, c'est souvent en cascade. Hein. Vous en visitez un, il y en a trois autres qui sont référencés sur ce site-là, et puis quand vous visitez les trois autres, c'est nouveau.
Et puis, il faut rappeler quand même que dans les weblogs, il y a une différence de qualité ou de contenu assez importante. Hein. Vous avez des blogs qui sont créés par des gens juste pour rire, hein, où il y a trois lignes, c'est pas spécialement intéressant, sauf peut-être d'un point de vue sociologique. Et puis il y en a d'autres qui contiennent réellement des mines d'or d'informations sur quelqu'un qui a fait un voyage en Angola pendant 6 mois à sac à dos, etc. Et qui met absolument tout sur l'Angola, la moindre auberge de jeunesse, le moindre truc, enfin tout était référencé. Il y a réellement des merveilles. Et bien c'est ça qui va finalement faire que son site sera connu, c'est la qualité du site. À savoir qu'une information qui est bonne sur Internet, vous pouvez faire confiance à l'Internet, elle circulera. Ça, il n'y a vraiment pas de problème.
Et la qualité aussi graphique et visuelle, hein, il est important. Donc ne pas tomber dans le piège de mettre des couleurs partout, des polices de caractères différentes, plein d'images clignotent. Restons sobres. Et c'est aussi, être agréable visuellement est aussi un plus pour que l'on vienne vous revisiter.
Et puis il existe le bottin du blog. C'est un bottin français. En tout cas, c'est un site français qui vous offre toute une série de weblogs ou de journaux sur le web. Et bien, il y en a énormément qui sont issus du milieu belge. Il y a énormément de Belges qui sont référencés là-dessus, bien plus que les Français et les Québécois. Donc, pour une fois, peut-être que les sites belges sont peut-être un peu plus intéressants. Mais c'est vrai qu'en la matière, vous avez énormément de choses. Beaucoup de journalistes aussi qui font leur propre site, qui parlent pas forcément d'eux-mêmes, de leur métier, de leur passion, etc. En plus de leur travail. Bref, il y a toute une série de perles à découvrir, effectivement. Il y en a qui ne servent strictement à rien, c'est clair, mais qui vous font sourire aussi. Donc, si vous voulez avoir cette adresse du Botard des blogs, www.botin-blogs.fr.st, c'est un peu compliqué, et ben vous nous passez un petit coup de fil cet après-midi et nous vous la donnerons, ou bien alors vous nous envoyez un courriel à toute autre chose @rtbf.be. et pour le numéro de téléphone, c'est le numéro traditionnel, le 02 737 26 06. Un grand merci à vous d'être venu nous parler de ce sujet dans cette émission. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain pour toute autre chose. Et demain, nous parlerons des peurs, les peurs des enfants, mais également des peurs d'adultes, peur du loup, peur de tout. Ça sera notre sujet de demain entre 11h et 12h. Un grand merci et à demain.
Lancez-vous chez Jeep. It's now or never.